Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Le corps auto-guérisseur, voici un titre étonnant qui suscite évidemment beaucoup de questions. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Le corps auto-guérisseur, donc, c'est le titre du livre de Seymour Brussel et Rodolphe Meyer aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'Harmonie. Nous parlerons ensemble ce soir donc de souffle de vie, d'énergie, de fluide et de la manière dont vous envisagez le corps et les maladies. Seymour Brussel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Une première question, rapidement, avec une réponse succincte, on y reviendra bien entendu tout au long de cette interview. Est-ce que si on vous colle l'étiquette ou l'image de guérisseur, cela vous gêne ?
Non, ça ne me gêne pas. J'ai tout entendu dans ma longue carrière. Magicien, sorcier, ouais. Docteur, enfin bon, tout se mélange.
Mais le terme de guérisseur dans le sens noble du terme.
Pardon ?
Dans le sens noble du terme, j'entends. Hein,
oui, non, mais je vous fais confiance. Guérisseur, par contre, si on s'appuie sur la méthode, c'est un terme qui n'est pas approprié parce que la guérison, comme le titre du livre l'indique, elle vient plus de l'organisme du patient que du thérapeute.
Ouais, c'est vrai. On va y revenir donc tout au long de cette émission. On parlera de souffle de vie, d'énergie. On parlera également de cette notion de liquide lumière et puis également de laisser aller avec une phrase extrêmement essentielle visiblement dans votre conception de l'approche de la thérapeutie. Ne rien faire, c'est essentiel face au patient. Ça, c'est assez passionnant. On va y revenir. Donc, durant cette heure, nous allons passer en revue les différentes questions-réponses, car il s'agit d'un dialogue dans votre livre, dont je rappelle le titre, Le corps auto-guérisseur, de Seymour Brussel, qui est mon invité ce soir, et du docteur Rodolphe Meyer. A tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Le corps auto-guérisseur, titre du livre de Seymour Brussel et Rodolphe Meyer, c'est une conversation, un échange de points de vue, un dialogue aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'Harmonie. Alors, avant de rentrer de plein pied dans ce livre, Seymour Brussel, parlons un petit peu de votre parcours personnel. Vous avez arrêté une brillante carrière d'acteur et d'auteur pour vous consacrer à votre métier de thérapeute. Vous avez fait partie des Inconnus, pour situer rapidement. Est-ce que c'est une aspiration qui s'est traduite rapidement, je veux dire, dès l'adolescence, dès votre jeune âge, ou c'est une aspiration qui s'est traduite de quelle manière ?
Non, c'est, comme vous venez de le dire, une aspiration qui vient de très loin, de l'enfance, d'un instinct, je dirais, puisqu'à cet âge-là, on peut parler d'instinct, de l'existence, de la dimension énergétique des choses, de la nature, qui a toujours fait partie de ma vie. Et ensuite, je me suis intéressé à travers des lectures, plus précisément à la radiesthésie, au phénomène des sourciers, et puis à des philosophies comme les philosophies zen, etc., en grandissant, ce qui ne m'empêchait pas de jouer, de faire la fête et de m'amuser. Hein. Faut pas penser qu'on rentre dans un monastère quand on parle d'énergie. L'énergie, c'est la vie, et quand on aime la vie, on aime vivre.
Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Voilà.
Mais est-ce que vous avez été attiré par la thérapie, vers l'acte thérapeutique, vers l'autre, assez rapidement ?
Très jeune, parce que sensibilisé à la maladie, puisque j'en venais, j'ai eu une enfance assez difficile sur le plan de la santé dès la naissance.
Ouais.
Donc je pense que la sensibilité à la maladie et à travers les autres, c'est la même, c'est-à-dire que quand on a connu la maladie, quand on la perçoit chez l'autre, on perçoit la souffrance, on est bien sûr interpellé et on se dit il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire est venu instinctivement de distribuer de l'énergie. Un thérapeute, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans ce domaine? Il distribue de l'énergie, ce n'est pas sa propre énergie, on en parlera peut-être
tout à
l'heure. Et donc, bien sûr, c'est venu assez jeune, pouvoir intervenir pour éliminer la souffrance, l'ayant connu très tôt.
C'est-à-dire quand vous avez commencé, entre guillemets, à distribuer de l'énergie, comme vous dites, ou à soigner, ça s'est traduit par l'imposition des mains. Comment est-ce que ça s'est fait de manière empirique? empirique au début, j'imagine.
Complètement empirique. L'imposition des mains, c'est le premier geste du magnétiseur. Sentir l'énergie de la matière, sans contact direct avec la matière.
Ouais.
Et sentir des flux de chaleur, des flux de souffle, des flux de picotement, des sensations qui sont difficiles à déterminer avec des mots, puisque ce sont des sensations, mais commencer à sentir qu'il y a une autre dimension de la vie qui existe, et que ce soit par rapport à un être humain, une plante ou un animal, le terrain d'exercice, il est permanent, il est quotidien, il est dans la nature.
Mmh. Encore faut-il l'assumer, parce que quand on commence à rentrer dans cette voie-là, je dirais même très jeune, on vient très rapidement vous voir pour un bobo ou un autre.
L'assumer, la question est très très juste. L'assumer par rapport à la société, par rapport au groupe, par rapport à la famille. J'ai tenu secrètes mes recherches pendant longtemps pour ne pas passer pour un fou par rapport à mon entourage. Ça c'est une première chose. Bon, la société a bien évolué aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Bon, vous savez qu'il y a des ouvrages qui sortent tous les jours à ce niveau-là. Mais il y a une époque où c'était difficile d'en parler. C'était difficile de le dire autour de soi, et le problème justement venait de la position par rapport aux autres dans la société quand on commence à poser les mains, à imposer les mains, comme on dit, à l'imposition des mains, et on verra que ce terme est juste et qu'il faut peut-être aller au-delà de ça par rapport à l'entourage. Ce n'est jamais très très facile de changer de vie, de changer d'alimentation. Je suis passé par des étapes que beaucoup connaissent. Vous savez, quand on devient végétarien et qu'on a des copains qui mangent du bœuf tous les jours, c'est difficile aussi. Donc ça fait partie d'un mode de vie qui peut entraîner donc des problèmes, et la meilleure solution, c'est de garder secret pendant un certain temps, avant d'être sûr de ce qu'on dit, avant d'être sûr de ce qu'on utilise comme pratique pour se préserver.
Je comprends très bien. Qu'est-ce que vous soignez au début? Des maux de tête,
des douleurs assez au début, des douleurs musculaires. On rentre pas dans le domaine de la maladie organique.
Je crois,
c'est un conseil que je donne. J'ai commencé des tendinites, des inflammations, des maux de tête. Oui, pourquoi pas, mais comment toucher la tête, vous savez, c'est quand même assez complexe. Il y a un cerveau en dessous.
Tout à fait. Ouais.
Et déjà, on s'attaque à des choses un peu plus minutieuses.
Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dévoilé, vous êtes dit, je rentre dans une autre lumière, plus celle des projecteurs, mais la lumière de ce que j'ai envie de faire, de la voie que j'ai envie de suivre.
Ben, les résultats qui encouragent, c'est-à-dire qu'on commence à soigner les copains, les copines, petit à petit, et puis on s'aperçoit que ça fait du bien, et que les résultats apparaissent au grand jour, et donc on se dit que pourquoi pas aller un peu plus loin avec plus de monde, le bouche à oreille se fait, donc on commence à avoir une assurance, être plus sûr de ce qu'on fait, et à ce moment-là de se dire mais pourquoi pas exister à travers ça, parce que ça remplit de joie aussi. C'est un échange. Soigner les autres, c'est aussi se soigner soi-même dans un sens. Et apporter du bien-être aux autres, c'est aussi s'apporter du bien-être. Je ne crois pas à l'altruisme pur. Je pense que si on le fait, c'est parce que aussi ça nous fait plaisir. Donc, avec le temps, avec l'expérience, avec les résultats, ça commence à s'installer. Et puis, une phrase très intéressante qu'on retrouve dans différentes philosophies, qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et j'ai vécu ça.
Justement, alors, j'allais en arriver là. Quelle a été votre voie?
Alors donc, parallèlement, ça prend des années. Enfin, moi, en ce qui me concerne, chacun a son histoire, chacun a son parcours. Ça a pris des années. Parallèlement, donc, je jouais la comédie. Mais je commençais à avoir de plus en plus de monde. J'étais sollicité de plus en plus fréquemment. Et je me suis, à un certain moment, posé la question, qu'est-ce que je fais? Parce que ça, il y a un moment, il y a des choix, comme ça, dans la vie, il y a des virages, il y a des carrefours, et puis quelle voie on prend. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, au travers d'un ancien copain que j'avais pas eu depuis 10 ans, et qui avait subi un accident de moto très grave, qui avait vrillé son squelette, qui marchait de travers, et je le vois arriver 10 ans plus tard, tout droit. Miracle, il marchait comme tout le monde, sans problème. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais opéré? Non, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui a travaillé sur moi plusieurs années, et voilà le résultat. Et donc, au fil de la discussion, on a décidé de rencontrer ce monsieur, et lorsque je l'ai rencontré, le courant est passé tout de suite, et il m'a accepté dans son cabinet pendant 6 ans. Je suis allé régulièrement travailler, apprendre avec lui, en observant son travail d'énergéticien.
Ouais. Et ça vous a poussé finalement à décider de stopper votre carrière d'acteur, peut-être pas d'auteur d'ailleurs, je ne sais pas.
Carrière d'acteur, il se trouve que je joue encore. Je joue en ce moment une pièce qui s'appelle Merci Jean-Claude au Mélo d'Amélie dans les Halles.
D'accord.
Donc j'ai mis cette carrière, je l'ai mise plus en retrait. Mais j'ai toujours joué, j'ai toujours été participant de soit à l'écriture, soit en tant que comédien, soit en tant que metteur en scène. C'est devenu donc non pas mon activité principale professionnelle, mais plutôt un hobby et mon sport du week-end.
Quoi. Ouais.
Donc alors cette carrière, il fallait bien sûr la calmer un peu parce que ça vous prend beaucoup de temps. Enfin, la carrière artistique, c'est énormément de temps aussi.
Ouais.
Et là, le choix a été poussé aussi en ce qui me concerne par le fait que je pensais avoir quand même fait le tour de ce que j'avais à voir dans le milieu du spectacle.
Ouais.
Et je ne m'y sentais plus bien, je ne m'y sentais plus à ma place. Donc ça n'a pas été difficile, les décisions elles viennent d'elles-mêmes.
Ça a été induit quoi, vraiment.
Vraiment. J'étais très aidé par certaines personnes du métier qui, au vu de leur attitude très désagréable et très négative, m'ont enlevé tous les doutes que je pouvais avoir. Alors ceux-là, j'ai jamais eu le temps de les remercier. Et je me suis toujours dit, il y en a quelques-uns, il faut que je les remercie parce qu'ils m'ont rendu un grand service.
Là,
et quand je vois aujourd'hui, parce que j'ai toujours des contacts avec le métier, quand je vois les difficultés de ce métier, les difficultés d'exister pour mes amis qui sont très connus, hein, ça n'empêche, c'est pas le niveau dans ce métier qui pose des problèmes, mais à n'importe quel niveau, vous devez le savoir, il y a toujours des problèmes, mais insensés pour exister, pour dire ce qu'on a envie de dire, pour écrire ce qu'on a envie d'écrire, jouer ce qu'on a envie de jouer. Je n'ai eu aucun regret. Hein.
Bon, très bien. Seymour Brussel est mon invité ce soir à la suite de la publication donc de son livre coécrit avec Rodolphe Meyer, Le corps auto-guérisseur, aux éditions Dervy. Comme je l'ai dit, vous avez écrit ce livre sous forme de questions-réponses, de dialogues, de confrontations de savoirs, de points de vue avec Rodolphe Meyer. Docteur, présentez-le nous.
Alors Rodolphe Meyer, je le rencontre justement à travers le spectacle. C'est étonnant parce que quand on a des chemins parallèles, ils restent parallèles pendant très longtemps, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Et alors il se trouve que sa femme est comédienne et que on jouait ensemble une pièce qui s'appelait Cours Sucré au Café de la Gare. Et je rencontre ce monsieur, le docteur Meyer, qui est devenu un ami depuis, et on s'est très bien entendu dès le départ, non pas au sujet de la médecine, mais plutôt au sujet de la bonne table et des haricots tarbés, parce que ça, il est excellent.
Très bon, les haricots tarbés.
On a cultivé les haricots tarbés, on a une culture d'haricots tarbés, parce qu'il est excellent dans la fabrication du cassoulet.
Ouais, tout à fait.
Et donc on s'est retrouvé sur ce terrain-là, le terrain du jardinage.
Bon.
Et de la bonne cuisine. Mais ce qui n'a pas empêché qu'au travers de nos discussions et de nos chemins divergents, mais qui se sont retrouvés, nous avons été tous les deux intéressés par ces parcours différents, une médecine donc, officielle et une médecine parallèle, empirique, qui nous a permis aussi d'avancer tous les deux, aussi bien lui que moi, dans nos connaissances et dans nos recherches par rapport aux réactions du corps humain face à un apport énergétique.
Mmh. Alors pourquoi avoir choisi, on l'a compris parce que l'occasion s'est présentée et que vous aviez une certaine affinité sur d'autres plans, vous l'avez donc choisi lui puisque vous le connaissiez, ce docteur en médecine, Rodolphe Meyer, mais pour l'écriture de ce livre, vous aviez besoin de quoi? D'être légitimé, de confronter les points de vue, de mettre ça en lumière?
C'est pas réellement un besoin, si vous voulez. Ça s'est fait pièce par pièce. Au départ, lorsqu'on m'a proposé d'écrire un livre, je n'avais jamais pensé du tout à écrire un livre. J'ai eu peur qu'on me demande de parler de ma carrière. Ça m'intéressait pas du tout. Et on m'a demandé de parler de mon travail. Donc ça m'a interpellé. Ah, ça c'est bien. Il y a un éditeur qui veut que je parle de mon travail.
Dervy en l'occurrence, ouais.
Et je suis passionné donc par ce que je fais. Et à ce moment-là, j'en parle à mon ami au sein d'une récolte de haricots Tarbais, et il me dit, mais si tu veux, je peux te donner un coup de main. Bon, j'enregistre, et puis quelques temps après, au fil de nos discussions, j'ai écoute mieux qu'un coup de main, puisqu'on a des discussions, un dialogue qui existe, il est là depuis quelques années même, puisqu'il s'intéressait à mon travail. Pourquoi ne pas l'écrire à deux? Ça serait très intéressant de proposer à l'éditeur un dialogue entre deux médecines qui, en fin de compte, parlent peut-être de la même chose, mais avec des mots différents. Et ça a intéressé tout de suite l'éditeur, et le livre s'est fait comme ça. Mais bien sûr que légitimer, c'est aussi un atout. La présence du médecin, le discours du médecin, c'est aussi une caution, mais ça n'a pas été le moteur de l'écriture de ce livre.
Ouais. Alors, évidemment, vous avez deux angles de vue différents sur le même objet d'observation. Finalement, et puis c'est à ça que sert le livre, que retirez-vous de ce dialogue? Et par là même, que voulez-vous que le lecteur retire de ce dialogue?
Une compréhension des choses, et je suis en train d'expérimenter la chose et de m'apercevoir que les patients qui ont lu le livre aujourd'hui réagissent différemment aux séances que je leur donne. Donc ça, c'est très important, si vous voulez. Et je ne m'attendais pas à ce résultat. Ça fait des années qu'on me pose des questions, qu'on me demande, on me demande même d'apprendre la méthode. On a créé des formations, et puis depuis, j'ai d'ailleurs intégré à mes formations le docteur Meyer. Et ces deux dimensions, donc d'une médecine officielle. Et avec un dialogue, par exemple, d'anatomiste, avec un discours d'anatomiste, un discours de physiologiste, et parallèlement un discours énergétique et une pratique, puisque dans nos formations il y a des pratiques, sont des compléments, sont vraiment deux pôles qui se rejoignent et qui se complètent et qui s'accordent très bien. Alors au niveau des patients, je reviens à ce que je disais, et là c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, et on va peut-être d'ailleurs écrire quelque chose de beaucoup plus succinct, un résumé, une synthèse de ce qu'on a écrit dans le livre, pour les patients, destiné aux patients, parce que lorsque la conscience est consciente, j'appelle ça la conscience consciente, de ce qui se passe à l'intérieur de la matière, de ce qui se passe dans le corps, il est évident aujourd'hui que le résultat et l'apport énergétique des séances est amplifié. Parce que, on va en venir tout à l'heure, vous allez, je crois, aborder le sujet du lâcher prise.
Oui, tout à fait. Oui.
Lorsque on sait ce qui se passe dans son corps, on sait ce qu'on va nous faire, une confiance s'installe et le lâcher prise peut s'opérer beaucoup plus profondément.
On se livre plus facilement.
Voilà. Et je suis très heureux, ça je vous le livre, là c'est vraiment, ça commence à se cristalliser parce que j'ai de plus en plus de témoignages et de gens qui ont lu le livre. Je suis très heureux du résultat que ça peut apporter aux patients pendant leur séance.
Ouais. C'est Mour Bruxelles, une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir votre thérapie manuelle bioénergétique, c'est comme ça que vous la qualifiez.
Oui.
Ce livre donc intitulé Le corps auto-guérisseur aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'harmonie, coécrit avec le docteur Rodolphe Meyer dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.
C'est Mour Bruxelles, thérapeute, et mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, à l'occasion, vous l'avez compris, de la publication de son livre aux éditions Dervy, Le corps auto-guérisseur. Vous avez parlé d'imposition des mains. On parlera de votre pratique, de ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur, de ce qui se passe. Alors, juste avant de commencer à évoquer l'énergie ou le concept de souffle de vie, de ce qui se cache derrière, votre pratique consiste essentiellement à imposer les mains. C'est ça, c'est vraiment ce geste.
Alors non, justement, on parlait des débuts. Les débuts, j'utilisais ce qu'on appelle l'imposition des mains. C'est-à-dire la main à une distance de quelques centimètres du corps, sans toucher direct la matière. Lorsque j'ai rencontré mon professeur, il m'a appris à toucher, à rentrer en contact avec la matière. Dans le verbe imposer, y a une connotation gênante en ce qui me concerne. On impose non seulement les mains, mais on impose aussi sa pensée. C'est-à-dire que dans l'imposition des mains, à l'époque où je pratiquais de cette manière, je dirigeais la séance, je dirigeais l'énergie, je demandais un résultat, j'essayais de contrôler les choses, je n'étais pas du tout dans l'écoute et dans l'ouverture et dans le lâcher-prise dont nous allons parler maintenant. Donc j'imposais les mains, mais j'imposais aussi ma pensée, et j'imposais aussi l'énergie qui circulait à travers moi. Il m'a appris à faire tout le contraire, c'est-à-dire ne rien faire. J'ai donc arrêté d'imposer les mains et d'imposer ma pensée. Dans la pratique, pour répondre à votre question, il s'agit de toucher, de poser la main, hein, donc pas de l'imposer, mais de la poser.
Oui.
De poser la main, de rentrer en contact avec le corps humain, alors en commençant par le crâne, tout simplement de poser les mains, de rentrer en contact, d'envelopper le crâne et d'écouter les informations qui viennent de ce crâne, qui viennent de cette matière, qui viennent de ce corps. De laisser venir l'information et de ne pas aller rentrer en direct dans l'organisme et d'imposer sa pensée, son énergie, etc. Donc c'est une différence fondamentale. Donc on quitte le terme d'imposition, on est dans le toucher, dans le contact et dans l'écoute.
Ouais. Alors allons un peu plus loin dans cette notion de laisser aller, de ne rien faire, c'est essentiel.
Alors,
c'est même assez
faire.
Drôle. Ouais. Je suis là, je ne fais rien et je ne dois rien faire. Vous me devez 70 euros, mon bon monsieur.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas, alors, je rectifie, c'est 30 euros, la séance.
D'accord.
Bon, et deuxièmement, donc, c'est un peu vrai, c'est-à-dire, je ne fais rien. Mais je ne fais rien, c'est-à-dire que j'écoute.
Voilà.
J'écoute une musique.
Voilà.
Si j'écoute un orchestre et que je me dis ah là il y a du violon, là il y a du hautbois, et là ah ça y est les corps prennent forme, il y a des percussions, et là, je suis pas du tout dans l'écoute, je suis dans l'analyse, je suis dans la pensée et donc je fais quelque chose. Là je suis en train d'analyser ce que j'écoute. L'écoute demande de vivre dans l'instant et de vivre sans l'intention d'agir ou d'analyser ou de faire quelque chose. Donc l'écoute d'un tissu humain, c'est ne rien faire, c'est ce qu'on appelle ne rien faire, c'est attendre l'information et accompagner le mouvement qui existe. Il existe un mouvement, heureusement, la vie c'est le mouvement, et dans chaque organisme avec lequel nous allons prendre contact, il y a un mouvement, il est déjà là, il est déjà dans son rythme. Pour l'accompagner, il faut l'écouter dans un premier temps. Et l'écoute est déjà un accompagnement. Donc je ne dirige pas la séance, je ne dirige pas l'énergie, je ne suis pas, hein, donc je ne suis pas derrière, je ne suis pas devant, je suis avec. Et pour être avec, c'est cette notion de ne rien faire, de lâcher prise, d'écoute totale, pour accompagner. Et mon accompagnement va déjà entraîner une action thérapeutique, dans le sens où c'est un apport d'énergie qui permet à ce mouvement peut-être de s'amplifier, peut-être de mieux se rythmer, de mieux se caler, etc.
Ouais.
Est-ce que c'est clair?
Tout à fait. C'est-à-dire que vous servez de canal, de canalisateur, et vous faites confiance à cette énergie qui, alors on va revenir évidemment là maintenant sur ce concept d'énergie ou de souffle de vie, de cette énergie qui nous entoure, vous faites confiance à cette énergie pour... elle a, elle, en elle-même, la solution pour remettre en harmonie, puisqu'on reste dans la métaphore musicale, c'est ça?
Exactement, exactement. C'est une question de confiance, le terme est juste, et je l'ai vérifié, je vous dis, après 20 ans d'expérience, l'énergie, la vie, l'intelligence cellulaire a toutes les solutions, toutes les réponses aux problèmes. Donc il faut lui faire confiance, il faut laisser faire, accompagner cette énergie, cette intelligence, hein, alors qui va se matérialiser dans le liquide, puisqu'on a parlé du liquide, on parlera tout à l'heure de la lumière liquide, qui va se matérialiser dans les liquides. Nous sommes composés de 75% de liquide, ces liquides...
Et 90% de liquide lors de la formation dans le ventre de la
mère. Voilà, alors ça, on parlait du fœtus.
Oui, 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 tout à fait.
Et donc, ce liquide, il a un mouvement, il est là pour nourrir la cellule et pour la nettoyer, un mouvement de flux et de reflux, comme la mer. Il rentre dans la cellule est percée de micro-trous, l'enveloppe cellulaire est percée de micro-trous qui permet au liquide d'intégrer la cellule, de la nourrir et de ressortir pour la nettoyer. C'est un mouvement de vie perpétuel à l'intérieur de notre organisme. Et c'est ce mouvement qui, lorsqu'il est perturbé, va laisser apparaître ce qu'on appelle des maladies. L'énergie s'intègre au liquide, elle en fait partie, elle est liquide. Et cette énergie a l'intelligence de savoir où, dans quel secteur du corps humain, le liquide ne circule plus. Le liquide n'arrive plus à irriguer correctement les tissus et les cellules, etc. Mmh. Donc laissons le liquide remplir les sillons qui ne sont plus irrigués. Accompagnons ce liquide, mais ne dirigeons pas cette intelligence de vie qui est permanente lorsque le système digestif est en action, nous n'en avons pas conscience. Lorsque le système respiratoire est en action, nous le laissons faire. Je veux dire, si nous ne dirigeons pas notre respiration, le souffle naturel, il n'a pas besoin de nous. Lorsque nous dormons, il y a une activité énorme dans le corps humain qui n'a pas besoin de notre conscience et qui sait très bien comment se rééquilibrer, comment agir et apporter les résultats donc attendus par l'organisme.
Ouais. Seymour Brussel, parlons un petit peu de ce concept de souffle de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là, le souffle de vie ou cette énergie ?
Alors, le souffle de vie, c'est un terme que l'on retrouve dans la Bible, c'est un terme que l'on retrouve dans le Tao, c'est un terme que l'on retrouve dans différentes parties du monde entier, c'est un terme qui est utilisé depuis très très longtemps et que le docteur Steele, le père de l'ostéopathie, utilisait dans ses écrits, et le docteur Sutherland ensuite a suivi donc ce chemin, et c'est lui qui a parlé de la lumière liquide. Mmh. Le souffle de vie, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie. Bon, il faut donner un nom, moi ce nom me plaît bien, certains parleront d'énergie cosmique, énergie vitale, énergie, le souffle de vie, c'est l'énergie de la vie qui anime toute vie sur cette Terre. La seule planète connue à l'heure actuelle qui abrite la vie dans l'univers, c'est la Terre. C'est la seule que l'on connaisse, je ne dis pas que c'est la seule qui existe abritant la vie, mais c'est la seule que l'on connaisse, et c'est celle que l'homme est en train de détruire. C'est quand même paradoxal, c'est fabuleux, on n'en connaît qu'une, et on est en train de la détruire. Tout ce qui est vivant sur cette Terre est animé par une force. Lorsque l'on va sur Mars et qu'on cherche la vie, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche de l'eau, on cherche des traces d'eau. On cherche donc quelque chose de liquide, l'énergie liquide, l'énergie dans le liquide, dans une plante, dans un minéral aussi, hein, et on cherche des traces. Et ces traces, cette vie, elle est animée, cette eau, elle est animée, sinon cette eau, elle stagne et elle meurt, une eau stagnante, elle meurt. Ce souffle de vie, c'est l'énergie qui anime toute forme de vie sur la planète.
Ouais. Que dit le docteur Rodolphe Meyer quand vous lui parlez de souffle de vie ? Quel est son angle de vue à lui ?
Bah, il a lu beaucoup de choses quand même avant de me connaître, et donc il n'était pas étonné de l'utilisation de ce terme, puisqu'en plus il a une formation d'ostéopathe et qu'il a lu les écrits du docteur Steele.
Ouais.
L'énergie quantique, alors donc on va parler de plus de termes aujourd'hui scientifiques, hein, entre guillemets, donc en termes quantiques, nous avons cité les écrits d'un physicien qui s'appelle Erwin Laszlo, et qui parle d'énergie du vide. L'énergie du vide, le vide quantique, c'est l'espace qui n'est pas visible entre deux objets de matière. Nous avons, et même entre deux
particules,
deux particules, ce vide est rempli d'énergie. Alors, ils appellent ça l'énergie du vide, l'énergie du vide quantique. Donc, dans les termes utilisés plus scientifiquement seront ceux-là plutôt que le souffle de vie, si vous voulez.
Ouais.
Et cette énergie, elle est en action permanente, elle est dans interaction, elle relie tous les objets dans l'univers, toutes les particules, et elle est plus constituée de liquide plus que de gaz, si vous voulez, en définition, et c'est rassurant parce qu'on retrouve les mêmes choses. Et Erwin Laszlo parle donc, lorsqu'il parle d'énergie quantique, l'énergie du vide quantique, il parle d'énergie liquide. On retrouve la même chose.
Ouais, ouais. Alors, vous abordez également ce concept, enfin le rapport entre le tout. Quand je dis le tout, c'est vraiment l'air qu'il y a autour de nous, la nature, la planète, tout le cosmos,
oui.
Et l'homme. Le rapport entre le tout et l'homme, nous baignons dans une sorte d'océan d'informations. Je sais pas comment on peut appeler ça, de vibrations, d'énergie d'ondes qui ne cessent de bouger.
Voilà, nous recevons et nous émettons, hein, nous recevons
oui, également,
et nous émettons des informations en permanence. L'homme n'est pas un milieu fermé comme son œil pourrait le définir. C'est un milieu ouvert. La vue a certaines limites. Hein, nous, on croise que ce qu'on voit. Mais non, on sait aujourd'hui que, bon, regardez, on est en train de discuter et ça passe par les ondes.
Oui.
Mais on ne se voit pas. D'ailleurs, on ne s'est jamais vu.
Ça, si, moi, je vous ai déjà
vu. Ah oui, là, on verra peut-être un jour. Et avec plaisir, d'ailleurs. Mais donc, les ondes sont porteuses d'informations en permanence. Et l'homme est un récepteur et un émetteur d'ondes. Chaque cellule peut intégrer et intègre en permanence donc des informations qui viennent du fin fond de l'univers. Et qui lui permettent donc de réagir, de vivre, de subir. Actuellement, par exemple, on est en pleine période d'équinoxe, l'équinoxe de printemps. Et bien, je peux vous dire que dans les cabinets médicaux, les cabinets thérapeutiques, on a du travail. Et tous les ans, il faut redire la même chose, mais on est en pleine période d'équinoxe. C'est une période de transformation énergétique de la planète. Le jour devient plus long que la nuit. La lumière, l'énergie lumière, donc, s'impose plus forte que l'énergie, que la nuit, sur les organismes vivants. Ça nous demande une adaptation. Et toutes les années à cette époque, eh bien, les gens tombent malades, ils sont fatigués. Qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas, je suis fatigué. Regardez ce qui se passe au niveau d'un élément aussi important que la mer, qui recouvre les deux tiers de la planète. C'est le moment des grandes marées. Et là, on a été gâtés, vous avez vu les grandes tempêtes qu'on a eues la semaine dernière. Voilà, donc ça, c'est ça, ça. Ce sont des informations qui touchent tous les êtres vivants, et aussi bien la planète. La planète peut être considérée comme un être vivant en permanence.
Alors, ces ondes peuvent également occasionner des dysfonctionnements. C'est à ça que je voulais
alors,
dire.
Alors, les ondes, voilà, là, on parlait, c'est le chapitre sur les ondes électromagnétiques, les champs électromagnétiques et tout ce qu'on peut recevoir actuellement grâce au portable,
les lignes à haute tension, la wifi, etc.
Exactement, voilà. Donc tout ça, bah écoutez, aujourd'hui, on est en plein dedans. Il y a des grandes polémiques qui sont en train de s'installer. Il y a des livres qui sortent. Il y a des médecins qui sont en train d'étudier le problème, donc des interférences de ces ondes sur la vie humaine et sur la vie en général.
Ouais.
Mais là, je pense qu'on va, hélas, aller vers de mauvaises surprises.
Mais pour aller élargir encore plus le débat, le fait qu'il y ait de mauvaises sensations peut provenir, puisque le corps est un émetteur, de quelqu'un à côté qui est mal, par exemple. Ça aussi peut interférer sur les cellules et sur nos propres ondes à nous.
Tout à fait. On a pu aujourd'hui mesurer et photographier le champ énergétique du cœur, de cet organe quand même vital qui s'appelle le cœur. Et on a d'ailleurs dans le livre, vous verrez, il y a une photo à la fin du livre. Voilà. Donc vous voyez la distance d'émission de l'énergie cardiaque. Et vous imaginez que dans ce champ rentrent d'autres éléments, comme des êtres humains, qui vont interférer sur ce champ. Donc une personne stressée risque d'entraîner le stress chez une personne qui l'est moins. Au même titre, donc, une personne calme et détendue va peut-être entraîner aussi une sensation de calme et de détente dans le champ énergétique de la personne qui est proche. Mais les effets aussi bien positifs que négatifs sont reçus et traduits par chaque être vivant à n'importe quel moment de la journée. Et bon, pour revenir à ce que vous dites, il y a des gens bien sûr qui font du bien et des gens qui font du mal. Mais ce n'est pas forcément une intention mentale.
Tout à fait, nous sommes d'accord. Oui. C'est mon Bruxelles, une pause à nouveau. Nous allons parler de la notion de lumière liquide, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Et puis, on parlera de différentes parties parce que vous évoquez plusieurs parties de l'anatomie, le crâne évidemment, le sacrum. J'ignorais qu'il était considéré par exemple par les médecines traditionnelles comme étant le cerveau émotionnel, et puis évidemment les différents liquides de notre corps, le thorax, le bassin, enfin bref, on évoquera tout ça avec vous dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.
Le corps auto-guérisseur, un livre de conversation entre Seymour Bruxelles, qui est thérapeute, manuel bioénergétique, et Rodolphe Meyer, docteur en médecine de son état. Seymour Bruxelles, parlons de cette notion de lumière liquide, ou de liquide lumière plutôt.
De lumière liquide plus précisément, qui vient du docteur Sutherland, qui était élève du docteur Steele. C'est tout le parcours de l'ostéopathie qui est passé d'une ostéopathie structurelle, manipulatrice, même violente, à une ostéopathie beaucoup plus subtile, qu'on a appelée ensuite l'ostéopathie crânienne, et de plus en plus subtile, l'ostéopathie qu'on pourrait aujourd'hui nommer quantique, l'ostéopathie énergétique qui des fois se dit bio-énergétique ou fluidique, ouais. Une ostéopathie qui travaille avec le liquide.
Mmh. Et juste une digression, vous n'avez pas l'impression que là, ce résumé que vous venez de faire, ça peut créer une sorte de passerelle entre la science pure et dure et ce qu'on a pu appeler jusqu'à maintenant les chamans traditionnels, les guérisseurs de nos campagnes, vraiment une vraie passerelle, un vrai lien entre les deux.
C'est exactement ça. Hein, ouais. Exactement ça, c'est un peu aussi ce qu'on a voulu démontrer dans le livre. C'est qu'il y a vraiment aujourd'hui des choses qui se rejoignent et qui s'unifient. Et c'est un grand moment de l'histoire. J'espère, hein, je le souhaite, que nous vivons une époque passionnante où tout se rejoint et tout va très vite.
Donc revenons à cette notion alors.
Alors cette notion donc de lumière liquide, elle vient du docteur Sutherland. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit résumé de la progression de cette découverte de l'ostéopathie. Le docteur Sutherland appelait la lumière liquide, liquid light, puisqu'il était américain. The liquid light, c'est la lumière liquide, la lumière dans le liquide, c'est-à-dire le liquide céphalo-rachidien, le liquide fabriqué par le cerveau, qui va circuler dans la moelle épinière, dans le cerveau et la moelle épinière, dans tout le système nerveux central, et se diffuser à tous les niveaux du corps humain. Et ce liquide, ces circuits, parce que ce liquide emploie bien sûr un circuit, hein, il suit des tuyaux qui l'amènent à un certain niveau. Eh bien, il va éclairer la conscience dans le toucher, si vous voulez. Nous utilisons des termes, des métaphores pour essayer donc d'expliquer des sensations. Et ça a toujours été très difficile et ça l'est toujours. Donc, il a utilisé ce terme d'éveil de la conscience dans l'accompagnement du liquide. C'est une lumière, si vous voulez, on peut appeler ça comme une lumière. Mmh. Ce liquide, il est là, il a un certain mouvement, j'en parlais tout à l'heure, mais il a une force interne que Sutherland a qualifié de lumière liquide, non seulement pour éveiller la conscience, c'est-à-dire pour apporter des informations, pour donner des informations, mais aussi comme force interne au liquide. Il a aussi parlé de liquide dans un liquide. Je suis liquide dans un liquide, c'est-à-dire que deux êtres humains qui se rencontrent, ça peut aussi être considéré comme deux fiasques de liquide, hein, puisqu'on parlait de 75% de liquide tout à l'heure, qui se rencontrent, et ce liquide est deux fiasques de liquide qui essaient donc d'être en accord avec le même mouvement. Ouais. Liquide dans un liquide.
Mmh, mmh. Donc, tout ce qui est théorie de mémoire de l'eau, évidemment, vous y adhérez pleinement.
Pleinement. L'intelligence, tout à l'heure, je parlais de l'intelligence cellulaire, c'est l'intelligence de l'eau, c'est aussi l'intelligence de toute la nature. Mmh. Et on adhère totalement à ces théories.
Ouais. Vous disiez d'ailleurs, une goutte de sang diluée dans l'océan attire les requins.
Ça, c'est un phénomène extraordinaire. C'est que tout communique. Je suis goutte d'eau dans la mer, je suis la mer. Je suis homme dans l'univers, je suis univers. Que tout est en interaction et que l'information, on en parlait tout à l'heure, circule à tous les niveaux. Bon, cet exemple de la goutte de sang, il est quand même impressionnant.
Assez parlant, oui. Ouais. Pour le moins, mordant même.
Oui, voilà.
Alors, Seymour Bruxelles, vous êtes mon invité sur Sud Radio pour ce livre, Le corps auto-guérisseur, aux éditions Dervy. Parlons d'anatomie. Vous consacrez plusieurs chapitres au crâne. Également, vous parlez du liquide céphalo-rachidien, vous parlez du bassin, du thorax. Parlons du sacrum, c'est ce qui m'a surpris, étonné. Ouais. Le sacrum est considéré par les médecines traditionnelles, dites-vous, comme étant le cerveau émotionnel.
Alors, le sacrum est ce que contient le sacrum. On va parler donc du lien organique avec les intestins. Mmh. Chaque organe correspond directement au niveau de la structure à un os, à une vertèbre. L'organe dépend de la structure. Ça, c'est le postulat de départ. Hein. L'organe dépend de la structure. Si la structure est en mouvement, l'organe peut être nourri, énergétisé correctement. D'accord. Si la structure se bloque, se coince, toutes ces fonctions que je viens de décrire ne seront plus alimentées correctement.
D'accord.
Donc, la vie étant le mouvement, notre objectif, c'est de rétablir le mouvement. En ce qui concerne le sacrum, cet os sacré, c'est l'os qui correspond à la base de la colonne vertébrale. Mmh, la colonne vertébrale, elle est plantée sur cette base.
Oui, le fondement, comme disent...
Le fondement, ouais, voilà. Ouais, donc la verticalisation de l'homme, le seul mammifère verticalisé, c'est l'être humain. Mmh. Cette verticalisation, elle est partie du sacrum. Et ce sacrum, il est accroché en suspension par une membrane qui s'appelle la duramère à la base crânienne, à l'occiput. Donc ce sacrum, il représente, je vous donne une image, le pendule, vous savez, le poids du pendule.
D'accord.
Il doit être en mouvement permanent
pour bien remplir son office, quoi.
Voilà, équilibrer la santé. Dans ce sacrum, on retrouve organiquement, donc lié à ce sacrum, les intestins et l'appareil génital. Alors, le deuxième cerveau, le cerveau émotionnel, et là je cite un exemple d'expérience de comédien, je dis que je me suis très vite rendu compte que mes intestins étaient liés à mes émotions, puisqu'au début de ma carrière, j'étais souvent dans les toilettes, juste avant de démarrer.
Le trac se traduit toujours comme ça.
Terrible. Moi je l'ai vécu vraiment, donc intensément, les premiers temps de ma carrière de comédien.
Ouais.
Les émotions viennent se répercuter donc à ce niveau. Deux expressions aussi populaires, serrer les dents et serrer les fesses.
Exact.
Quand on
c'est
a
vrai,
peur,
ouais.
qu'on fait.
Voilà.
Ouais, pourquoi c'est vrai. Parce que c'est un instinct de protection et on serre les fesses pour démarrer s'il y a une fuite qui peut être salvatrice. Donc, je dis souvent que 95% de la population vit en serrant les dents et en serrant les fesses. Très peu de gens sont détendus aujourd'hui, hein, dans notre vie moderne, dans notre façon de vivre. Donc, ça se traduit par des tensions donc au niveau des cervicales, au niveau de la base crânienne et au niveau du sacrum, au niveau donc que ça se répercute au niveau des lombaires, la fameuse lombalgie, le fameux limbago, la sciatique, etc., etc. Alors ce sacrum, c'est le pôle donc inférieur du squelette, accroché en suspension à la base crânienne, qui s'articule entre ce qu'on appelle les hanches, entre les ailes iliaques, les deux grands os, là, deux grandes oreilles. Et ce triangle donc a besoin d'être en mouvement. Il subit, il vit à travers un mouvement perpétuel de flux et de reflux du liquide qui l'entraîne. Donc, si vous donc considérez que 95% de la population vit comme ça, en compression, vous imaginez donc les dégâts que ça peut entraîner à tous les niveaux.
Ouais. Ça peut entraîner quoi comme genre de maladie ou de désagrément, par exemple?
Bah, écoutez, on vit, par exemple, dans un monde où le cancer de la prostate touche énormément de gens, énormément d'hommes. La prostate, elle est reliée donc à travers l'appareil génital à ce sacrum. C'est une zone qui ne vit pas, qui n'a pas l'énergie suffisante. L'énergie vitale, elle vient de là, elle vient de la base. Ce que, en autonomie, puisque je cite un peu les travaux autonomiques dans le livre, on appelle cette zone la sécurité de base, la base. L'énergie vitale, le centre, le hara des Japonais. Les Japonais ont bien décrit cette zone. Ils ont bien conscientalisé les choses.
Dans tous les arts martiaux, c'est une zone extrêmement importante.
Voilà, on se déplace à partir du bassin. Ouais. On déplace tout le squelette, le corps, à partir de l'énergie vitale qui se trouve dans le bassin. Les Indiens appellent ça la Kundalini, l'énergie qui part.
Le serpent qui est enroulé à la base et qui remonte le long de la colonne vertébrale.
C'est une zone énergétique qui est, dans nos sociétés, complètement négligée, je dirais, puisqu'on ne nous apprend pas tout ce qu'on vient de dire, et qu'on nous apprend plutôt à bomber le torse et à serrer les fesses, tiens-toi droit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on bombe le torse et qu'on serre les fesses pour se tenir droit? On bloque la circulation énergétique du corps humain.
Effectivement.
Alors, répercussions, elles se trouvent à tous les niveaux de maladies organiques que l'on peut... Bon, je vous citerai pas le dictionnaire, mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de maladies aujourd'hui?
Donnez-nous également rapidement, comme vous l'avez fait pour le sacrum, ce que représente le thorax, qui est un lieu éminemment important, enfin j'imagine.
Alors entre le crâne, donc symboliquement, on dit que le crâne c'est la terre et le bassin l'univers. Et entre les deux, ce que les Chinois appellent la colonne céleste. D'accord, la colonne donc vertébrale, la colonne céleste qui relie la Terre à l'univers. Entre les deux, le thorax, lui, il est relié par un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui ressemble à un parapluie accroché sous les côtes, qui prend son point d'ancrage inférieur au niveau des vertèbres lombaires, donc accroché au sacrum, on va dire, et qui, par prolongation, remonte à travers les cervicales jusqu'au centre du crâne, pour s'accrocher à un os qui s'appelle le sphénoïde. Donc, ce tronc musculaire, avec deux pôles d'attache inférieur et supérieur, au milieu, sépare les organes de la digestion et les organes de la respiration.
Et le cœur, oui.
Voilà. Ce diaphragme, là on parle souvent du plexus solaire aussi,
oui,
hein, donc le centre, la base du thorax. Ce diaphragme, il est, comme je vous l'ai dit, quand on serre les fesses et comme on serre les dents, c'est un muscle puissant, il est en tension. Et il ne permet pas au corps de respirer pleinement. Je vous dirais aussi que 95% de la population ne respire pas à 100%. L'amplitude de l'inspiration et de l'expiration n'est pas respectée. On a des toutes petites inspirations et des toutes petites expirations dans la journée. On ne sait pas ce que c'est que de respirer. Et nous avons abordé un chapitre qui s'appelle la cohérence cardiaque et qui est issu de recherches approfondies hein, qui ont été vraiment développées aux États-Unis sur les capacités de rééquilibrage de l'organisme et de la santé grâce uniquement à des exercices de respiration et des exercices de respiration d'une amplitude importante et respectée.
Ouais.
Et ce diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Lorsque le diaphragme s'abaisse, les poumons se remplissent. Lorsqu'il remonte, les poumons se vident. Mais lorsque ce diaphragme est déjà lui-même retenu par des tensions musculaires, il n'a pas aussi les capacités de donner tout son travail. Alors la cohérence cardiaque, c'est la cohérence de rythme entre le cerveau et le cœur. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde.
Oui.
C'est assez compliqué.
Le rythme cardiaque.
Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, il est indépendant du cerveau. Par contre, il y a une dépendance entre le cerveau et le cœur, entre le rythme qu'il y a, que l'on trouve entre les battements du cœur. Nous avons le battement, puis il y a un espace entre les battements du cœur. Et c'est la mesure de cet espace qui est importante et qui donne ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ce sont deux organes qui sont liés, qui ont été liés dès la formation embryologique. Ce sont deux poches qui se sont touchées. Quand vous visualisez l'image du haricot,
hein, du petit, tarbet.
Le tarbet, qui est en train de l'embryon, hein, qui ressemble à un haricot tarbet, bien sûr. Vous avez deux poches qui sont face à face. Et ces deux poches, ce sont la poche cérébrale et la poche cardiaque. Et ces deux organes vont rester en lien toute la vie, comme tout est en lien dans le corps humain, mais ceux-là sont très proches par leur formation embryologique. Et le rythme, c'est très important et très simple en même temps, c'est que ce rythme de respiratoire, s'il est respecté, si on prend le temps de respirer dans la journée, nous sommes aperçus que les résultats étaient étonnants, c'est-à-dire qu'on pouvait considérer qu'il entraînait un vieillissement retardé, une amplification de la fabrication des défenses immunitaires, un rééquilibrage du système nerveux, tout simplement en respectant une respiration.
Ce qui n'est pas rien, quand même.
C'est insensé. Le docteur... livre qui s'appelle Guérir de Servan-Schreiber. Le docteur Servan-Schreiber a abordé ce sujet dans son livre. Et si sur Internet les gens prennent le temps de faire quelques investigations en tapant cohérence cardiaque, ils vont être étonnés des résultats que l'on a pu confirmer en pratiquant tout simplement une respiration coordonnée et équilibrée plusieurs fois dans la journée.
Ouais. C'est mon Bruxelles. Une dernière pause à nouveau avec nous dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Et nous allons parler de vos consultations. Comment est-ce que ça se passe? Comment soignez-vous dans la pratique? Qu'est-ce que visuellement il se passe lorsqu'on vient vous rencontrer? On va découvrir ça dans quelques instants. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.
Toute dernière ligne droite dans l'exploration de ce livre que je vous recommande, Le Corps Auto-Guérisseur, écrit sur la base d'un dialogue entre un thérapeute d'un côté, Seymour Brussel, et un docteur en médecine ostéopathe, Rodolphe Meillard de l'autre. C'est aux éditions Dervy. Alors, avant de vous céder la parole sur Sud Radio, Seymour Brussel, juste la lecture d'un témoignage d'une dame, comédienne et auteure. Je lis donc ce témoignage que vous mettez en préface de votre livre. « Madame, dit le docteur, vous avez une lombalgie. Alors voilà une tonne de médicaments à prendre. Au revoir, merci, 80 euros. Mais j'ai mal, docteur. Alors mon cerveau appelle ma mémoire. Je sais qu'il y a quelqu'un caché dedans qui peut peut-être m'aider avec sa science et ses mains. J'ai mal au dos, mais il pose ses mains sur ma tête. Il fait des bruits bizarres. Ma douleur quitte mon corps pour aller vers le sien. À la fin de la séance, je suis sonné, saoul, mais je n'ai plus mal. Seymour a des mains magiques. Merci. Signé Michel Bernier, que l'on connaît bien. Ça se passe comme ça chez vous ? Enfin, quand on vient vous voir, Seymour Bruxelles ?
Oui.
Vous faites des bruits bizarres.
Oui, alors donc ça c'est une technique de, ouais. d'expulsion des tensions, d'un accompagnement. Je vous ai parlé tout à l'heure d'accompagnement. On accompagne l'énergie, on accompagne le mouvement qui existe dans le corps humain, on accompagne aussi les tensions qui lâchent hein, et qui se libèrent. Mmh. Donc, pour lorsqu'on est en contact énergétique avec une personne, mais ça nous le sommes toujours, mais rarement sous forme consciente, lorsqu'on est conscient du contact énergétique que l'on peut établir pendant une séance, nous ne faisons plus qu'un. La relation du toucher permet aux deux organismes de s'équilibrer et de ne faire qu'un. À partir du moment où les tensions se libèrent chez le patient, eh bien, elles se répercutent aussi chez le thérapeute. Beaucoup de thérapeutes d'ailleurs viennent me voir pour me demander si je n'ai pas des solutions par rapport à ce qu'on appelle des retours. Mmh. Une séance énergétique peut être très fatigante. Oui. Elle peut même occasionner des douleurs, peut occasionner des effets désagréables. Mmh.
C'est ce que les guérisseurs traditionnels dans nos campagnes disent prendre le mal.
Voilà, prendre le mal, c'est ça. C'est-à-dire la vibration négative, on parlait d'onde tout à l'heure, ouais, elle se propage partout, elle se propage aussi à l'intérieur de l'organisme du thérapeute. Il est là, c'est un être vivant, ouais. Il est en contact, il a ouvert, hein, il a ouvert son écoute, et il accueille aussi des bonnes choses et des mauvaises choses, ce qu'on peut appeler des ondes négatives. Et alors les accueillir, c'est bien, mais il faut s'en débarrasser.
Ouais.
Et c'est mieux. Donc, y a une technique que l'on utilise, je ne sais, ce n'est pas la seule, mais celle que j'utilise, c'est celle d'un dégagement, donc, alors ça fait d'un dégagement par le souffle. Alors ce qui se traduit peut-être pour certains, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait il a des tics, mais c'est un dégagement qui est basé sur l'accompagnement de la tension. Dans les arts martiaux que je pratique, dans l'aïkido par exemple, on apprend à ne pas lutter contre la force de l'adversaire. Au contraire, on apprend à utiliser la force de l'adversaire, à l'accompagner, hein, accueillir le coup pour l'accompagner, voire le diriger vers l'extérieur. Mmh. Et ben c'est la même chose, si vous voulez, dans une relation d'onde et de correspondance énergétique entre deux individus.
Ouais. On a bien compris cette relation étroite que vous établissez avec votre patient. Mais une porte est ouverte dans les deux sens. Quand vous êtes mal, est-ce que ça ne peut pas non plus aller vers l'autre organisme vivant, celui que vous avez en face ?
Alors, d'une part, je n'ai pas le droit d'être mal.
Oui, ça,
le thérapeute doit toujours être en forme. Le thérapeute doit être en équilibre. Il doit être dans sa base. Il doit être centré. Et il ne doit pas être déséquilibré par les problèmes, les tensions, les ondes négatives donc, du patient. Être mal, bien sûr, on est des êtres vivants.
Bien sûr, vous pouvez avoir
en forme, on n'est pas en fait fatigué.
Oui. Un chagrin, quelque chose qui vous a contrarié.
Émotions,
voilà, bien sûr.
Et c'est pour ça que je pratique les arts martiaux, que je pratique la méditation, c'est-à-dire pour au moins pendant cette situation de soins, ne pas être parasité par ma vie personnelle ou mes petits envies de santé ou de fatigue, si vous voulez. Et je me suis rendu compte, si on parle de la fatigue, par exemple, la fatigue peut rendre service. La fatigue dans le lâcher-prise, elle est très intéressante parce qu'on est tellement fatigué qu'on n'a plus la force de retenir ses tensions et on se trouve dans une attitude qui est favorable pour la séance.
Exact. Ouais. Et une séance dure combien de temps ? Vous avez besoin combien de temps pour pouvoir entrer en contact comme ça ?
Ça peut se faire très rapidement. Une séance dure une demi-heure. Le contact, lorsqu'on est entraîné, se fait dès que la personne rentre dans la pièce. Mmh. Ensuite, le contact au niveau du toucher, on met les mains sur le crâne. Et pour quelqu'un qui n'a pas trop de blocage, qui n'est pas trop fermé, ça peut démarrer tout de suite.
Mmh. Et enfin, dernière question, Seymour Bruxelles, parce que vous avez un emploi du temps assez chargé. Que pensez-vous, en lisant le titre du livre, la question m'est tout de suite venu à l'esprit, des cas de d'auto-guérison, parce que là, c'est le corps lui-même qui se guérit. Vous êtes que le chef d'orchestre en quelque sorte.
Non, je suis pas chef d'orchestre. C'est pas ça. Je suis l'accompagnateur.
Si vous préférez, d'accord. Oui, le terme est plus juste.
L'accompagnateur, c'est vraiment très important, ça, comme notion. Les cas d'auto-guérison, ce sont des cas extraordinaires et complètement ordinaires, si vous voulez, qui révèlent les capacités d'un organisme, d'une intelligence qui n'est pas celle à laquelle on pense tout de suite. L'intelligence, donc, du corps humain, l'intelligence de la cellule. On parle de l'effet placebo dans le livre. Vous savez que on a fait des expériences d'opérations, c'est fabuleux, d'opérations chirurgicales placebo. On opère des gens, c'est-à-dire qu'on ouvre, on ne fait rien et on referme. Et la personne est persuadée d'avoir été opérée, c'est-à-dire qu'on a un chirurgien a retiré son mal. Ça la traduction, on a retiré mon mal. Et à ce moment-là, le corps donne des résultats, mais étonnants, d'auto-guérison. Parce que ces gens guérissent. On n'a rien fait, on a ouvert, on a refermé, mais ces gens guérissent. Pourquoi ? Parce que le mental a lâché quelque chose. Il a lâché prise sur son problème, sur cette tension, sur son traumatisme. Il est persuadé qu'on a retiré ce qui le gênait, et une énergie s'est libérée dans le corps humain à partir de cette idée, de cette pensée. Une énergie s'est libérée dans le corps humain pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de cet organisme.
Donc, à vous entendre, toutes les maladies que l'on peut subir ou les désagréments sont d'ordre psychosomatique ?
Toutes, 100% des maladies sont psychosomatiques. Et la maladie peut être considérée comme une chance dans la considération que la vie est un chemin d'évolution, de transformation, et la maladie, elle est là pour apporter des informations qui permettront d'aller plus loin, c'est-à-dire de se transformer. Pas de moi, hein, c'est ancestral. Hippocrate disait, si tu tombes malade, change de vie. Si je tombe malade, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que je ne supporte pas, que je ne vis pas bien. Et à moi de chercher, de trouver les solutions par rapport à cette situation qui est en train de me détruire.
Ça fait partie donc, ça aussi, de votre travail.
Tout à fait. La discussion, la verbalisation, c'est aussi, sur un plan énergétique, une libération des problèmes qui peuvent... les psys travaillent plus précisément à ce niveau-là. Le problème, on parlait d'unité tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a tout dissocié. Mais si on revient à une notion d'unité, le corps et l'esprit ne font qu'un, et ça fait partie du travail d'une séance.
Donc, les miraculés de Lourdes, puisqu'on fête les 150 ans des apparitions de Bernadette Soubirous à Lourdes, là, dans notre grand sud, les miraculés de Lourdes entrent tout à fait dans votre cadre, dans votre schéma de pensée, finalement.
Pour moi, c'est tout à fait l'explication des miraculés de Lourdes. C'est tout à fait l'explication d'un organisme qui, face à une force de pensée,
et
qui
est la
pensée,
foi,
fait de l'énergie, ça c'est la preuve que la pensée est de l'énergie, cette pensée et cette forme d'énergie va permettre de cristalliser des choses, de libérer des choses qui étaient bloquées depuis des années.
Simon Bruxelles, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps.
Merci à vous, d'avoir accueilli sur votre radio.
Non, c'est avec plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, donc Le corps auto-guérisseur, un dialogue avec le docteur Rodolphe Meyer dans la collection Chemin de l'harmonie aux éditions Dervy. Un autre livre en préparation ou...
Oui, un autre livre sur la peur, justement, à l'origine de nos maladies. Vous voyez, donc la peur qui va se transmettre au niveau des tissus et refermer nos cellules, notre corps et notre respiration énergétique.
Toujours sous forme de dialogue, comme ça ?
Là, non, je suis parti tout seul, là, parce que c'est pas qu'on s'entend très bien, on continue à se voir, mais le docteur Meyer est parti en travailler en Suisse, et il n'a pas le temps en ce moment d'écrire.
D'accord. Et en ce qui concerne votre carrière artistique, que vous avez un petit peu mis en retrait, mais qui existe toujours ?
Eh bien, merci Jean-Claude. Donc, le titre d'une pièce de Bruno Chappelle, un ami de longue date, qui était aussi au Théâtre de Bouvard, et
vous avez
joue au Mélo d'Amélie. Tous les soirs à 21h30.
À Paris. Très bien.
À Paris.
Merci beaucoup, Bruno.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.